Avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après les gilets jaunes, les gilets oranges. Des entrepreneurs dans le BTP craignent une détaxation du gasoil qu'ils utilisent. Cela signifierait pour eux une hausse de 50 à 60 centimes d'euros par litre de carburant. Ce sont eux qui bloquent les dépôts en ce moment dans l'Ouest. Témoignage à suivre.
Pendant ce temps, la réunion prévue aujourd'hui avec les gilets jaunes à Matignon a été annulée. Hier, les représentants politiques se sont succédés pour demander des mesures fortes à l'exécutif, la revalorisation du SMIC notamment.
Et les manifestants arrêtés ce week-end, eux, pour dégradation et violence, sont passés hier pour certains en comparution immédiate devant des tribunaux. Nous y étions. Après ce journal, Frédéric Say se demandera si les gilets jaunes doivent devenir un mouvement politique. C'est peut-être déjà le cas.
Dans cette édition encore, nous ferons un point sur le Brexit et les discussions qui doivent débuter aujourd'hui au Parlement britannique. Il manque ce matin au moins 70 voix à Theresa May pour faire passer son texte.
Et puis le livre numérique va-t-il remplacer le livre papier ? En France, c'est loin d'être le cas, même si de gros changements s'annoncent. Vous l'entendrez en fin de journal. Convoqué aujourd'hui pour avoir bloqué depuis une semaine le dépôt pétrolier de Brest dans le Finistère. 5 entrepreneurs devront se rendre à la gendarmerie ce matin. Ils pourraient perdre leur permis de conduire et écoper d'une amende. Ce ne sont pas des gilets jaunes, non, mais des gilets oranges, des patrons du BTP, bâtiments, travaux publics, qui refusent la fin de la détaxation du gasoil sur leurs machines. Dans moins d'un mois, au 1er janvier en effet, le GNR, le gasoil non routier qu'ils mettent dans tout leurs engins de chantier, ne sera plus détaxé. Le prix sera donc le même que le gasoil classique en station-service et les conséquences économiques s'annoncent désastreuses selon Bruno Corr. Il dirige une entreprise de terrassement de 18 salariés dans la région brestoise.
À partir du 1er janvier 2019, on va se retrouver à payer notre carburant pour nos machines à 1,50€, peut-être même un peu plus parce qu'il parle d'une augmentation, au lieu des 0,80 centimes qu'on a aujourd'hui. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir à peu près par litre, c'est ça qui est important, quoi, par litre de carburant, une augmentation d'à peu près, tout le monde parle d'environ 58 centimes. C'est une charge qui est énorme, énorme. Pour ma part, ça représente environ une perte de 70 000 euros par an. Les gilets jaunes, eux, alors je comprends leur mouvement, mais les gilets jaunes réclament, enfin se plaignent pour une augmentation de 7 à 10 centimes pour le gasoil. Mais nous, c'est pas 7 à 10 centimes. Nous, c'est 50, voire 60 centimes. C'est intenable, intenable. Alors c'est sûr que le fait de bloquer des pots de carburant fait avoir des pénuries dans tout le Finistère, d'accord ? Donc notre mouvement, ils sont bien obligés de se rendre compte qu'on a un problème et j'espère qu'ils vont nous rencontrer, mais pour l'instant, rien.
Alors cette détaxation est prévue pour le moment le 1er janvier prochain pour les entrepreneurs du secteur du BTP. Elle concernera en 2020 les pêcheurs et les agriculteurs. Des agriculteurs qui, eux aussi, commencent à se mobiliser en marge de la mobilisation des gilets jaunes. Le premier syndicat agricole, la FNSEA, évoque un matraquage fiscal et attend que le gouvernement tienne ses promesses sur la loi alimentation. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, annonçait hier au micro de Jean Lémarie une mobilisation nationale la semaine prochaine.
Nous avons déjà beaucoup de raisons de sortir. Le matraquage dont fait l'objet l'agriculture avec que des critiques en direction de notre secteur, nous ne le supportons plus. Aujourd'hui, il y a 500 tracteurs dans les rues de Strasbourg. Il y a des manifestations qui s'organisent un petit peu partout. Oui, nous allons dire notre mal-être. Nous serons dans la rue très prochainement pour dire stop au matraquage des agriculteurs et que le gouvernement tienne ses promesses sur la loi alimentation.
Savez-vous quand ?
La semaine prochaine. Je sais le lobbying que sont capables de faire un certain nombre d'acteurs. Moi, je les invite à la responsabilité. Comment expliquer aujourd'hui aux agriculteurs qui attendent ces mesures depuis 18 mois, voire plus de 2 ans, qu'il faut repousser et que ce soit eux qui fassent crédit à d'autres et qu'ils aient encore des revenus trop bas ? Non, c'est pas supportable.
Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Hier déjà, des agriculteurs ont manifesté à Bergerac ou encore à Chartres devant la préfecture d'Eure-et-Loire. Et pour grossir les rangs de la contestation, les lycéens ont débuté des blocages hier également dans une centaine d'établissements en France. Un mouvement de fronde et de violence encore contre les réformes de l'éducation nationale, contre la plateforme Parcoursup et la réforme du baccalauréat entre autres. Pour ce qui est des gilets jaunes à l'origine de cette séquence de contestation pour plus de pouvoir d'achat, la réunion prévue cet après-midi à Matignon avec le Premier ministre Édouard Philippe est annulée. A priori, un seul manifestant, un seul représentant des Gilets jaunes avait prévu de s'y rendre. Ils sont nombreux à évoquer des menaces et des intimidations. A priori aussi, un premier geste important de l'exécutif semble imminent. Le ministre de la Culture, Franck Riester, l'annonçait hier soir après une visite à Matignon en tant que président du parti politique Agir. Tous les représentants politiques se sont d'ailleurs succédés, demandant un moratoire sur les taxes, un rétablissement de l'ISF ou encore l'augmentation du SMIC. Il est actuellement de 1498 euros bruts, 1188 euros nets. Revaloriser le salaire minimum de croissance, une option, Catherine Pétillon, qui pourrait convenir à beaucoup, sauf au gouvernement.
Cette revendication est une façon de ramasser la demande d'amélioration du pouvoir d'achat et des revenus, car c'est l'un des seuls leviers directs qu'a l'exécutif sur les salaires. Or, le Premier ministre a annoncé il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas de coup de pouce au SMIC au-delà de son indexation automatique. Un mécanisme légal le revalorise chaque année en fonction de l'inflation, ce qui permet à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, de souligner qu'il y aura bien au 1er janvier, je cite, une hausse du SMIC significative. Une réunion avec les partenaires sociaux mi-décembre en déterminera la valeur, elle devrait tourner autour des 2%. Même face à la mobilisation des Gilets jaunes, peu probable que le gouvernement aille plus loin. D'abord parce que les effets concrets sur le pouvoir d'achat pourraient s'avérer faibles au regard du coût de la mesure pour l'exécutif. Aussi parce que cela entrerait en contradiction avec toute la politique économique qu'il met en œuvre. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE.
Ça irait quand même un peu en contradiction par rapport à d'autres mesures prises par ce même gouvernement. On pense à la transformation du CICE en baisse de cotisation et puis essayer de le cibler par ailleurs des baisses de cotisation au niveau du SMIC. Donc l'idée de ce gouvernement, c'est bien au contraire de baisser le coût du travail au niveau du SMIC pour créer beaucoup d'emplois au niveau du SMIC. Alors après, on peut critiquer ce type de mesure, mais vous voyez qu'on peut pas au même moment où le gouvernement tente de baisser le coût du travail du SMIC, de le réaugmenter.
Enfin, alors que Bruno Le Maire a redit hier sa volonté de baisser la dépense publique, une telle mesure aurait un coût important pour les finances au regard de la politique de baisse des cotisations instaurée depuis le début du quinquennat.
Quelle sortie de crise sociale et politique. Matignon annonce un débat sur le sujet demain à l'Assemblée nationale et après-demain jeudi au Sénat. Ils étaient mobilisés samedi. Les CRS en question pourraient toucher une prime exceptionnelle. Emmanuel Macron leur a annoncé tout cela hier midi en déjeunant avec eux. Des CRS qui se sont attelés ce week-end à repousser les manifestants violents. Hier avaient lieu les premières comparutions immédiates un peu partout en France, avec souvent des peines d'emprisonnement avec sursis. Quelques peines fermes, rarement assorties d'un mandat de dépôt, car les profils des prévenus ne ressemblaient bien souvent pas à ceux des casseurs expérimentés. Exemple à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées où 8 personnes ont été condamnées à l'ingastal.
De la prison ferme pour tous, mais 2 mandats de dépôt seulement. Le premier pour un multirécidiviste de la délinquance, le second pour un prévenu un peu trop arrogant à l'audience. Les autres, les autres ne présentent pas vraiment un profil de casseur professionnel. C'est plutôt un inventaire à la Prévert qui défile à la barre. Que fait là en effet ce cuisinier à la retraite de 69 ans, à la santé fragile, qui plus est, en compagnie d'un plombier, d'un jeune SDF, mais aussi d'un agent de sécurité et même d'un sous-officier de régiment de parachutistes. Tous pourtant ont été reconnus coupables d'avoir jeté pavés, bouteilles ou simple caillou sur les forces de l'ordre et causé 13 blessures légères. Mais ce n'est pas le mouvement qui est condamné. 2 d'entre eux seulement, précise le procureur, sont des gilets jaunes. Assidus depuis 15 jours, le sous-officier de para a même posé une permission pour tenir les barrages. Tous pourtant sont des voyous, conclut le parquet, qui avait même requis 8 mandats de dépôt. Le tribunal a jugé plus sage d'éviter la prison à la plupart d'entre eux, sans doute pour leur donner une chance de reprendre le cours de leur vie bien rangée, selon les propos d'une de leurs avocates.
Alain Gastal, depuis Toulouse, pour France Culture. Il y avait tout de même une volonté de tuer, a dit hier soir le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. L'Assemblée où le député Julien Aubert voudrait monter une commission d'enquête parlementaire sur la fiscalité écologique et sur son efficacité. L'élu du parti Les Républicains est, selon nos confrères de France Info, suivi pour le moment par la moitié de son groupe. Ajoutons que par ailleurs, les députés, hier soir, ont voté la création d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique dans le cadre de la réforme de la justice. Actuellement, le placement sous bracelet électronique intervient avant un procès ou pour l'aménagement d'une peine d'emprisonnement.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Theresa May va devoir se montrer convaincante aujourd'hui pour sauver son accord sur le Brexit.
La première ministre britannique va demander aux députés de soutenir son texte, conclu il y a quelques jours avec l'Union européenne. européenne. Les débats au Parlement britannique doivent durer 5 jours avant un vote crucial mardi prochain. Et Theresa May n'est à ce stade pas tout à fait assurée de l'emporter face aux députés Isabelle Labierie.
Ils vont débattre 8 heures par jour jusqu'au vote mardi prochain. Débattre d'un texte qui ne met personne d'accord, dans une enceinte surchargée par manque de place assise. La session promet donc d'être bruyante et agitée, à l'image du chahut qui accompagne chaque intervention de Theresa May devant les députés. À quelques mètres de la ligne d'arrivée, les laborieuses négociations de ces 2 dernières années butent sur un calcul très simple. Pour que son accord soit validé, la première ministre britannique a besoin de 320 voix. Or, à ce stade, elle en a moins de 250. Dans son propre camp, environ 90 députés devraient la lâcher, notamment pour cause de concessions trop nombreuses face à Bruxelles. Ses alliés unionistes irlandais, sans lesquels elle n'aurait pas la majorité, refusent quant à eux un texte qui propose une frontière douanière, même provisoire, entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. C'est donc paradoxalement dans le camp d'en face que Theresa May peut trouver des soutiens auprès d'une poignée de travaillistes europhiles, ceux qui préfèrent un mauvais accord à pas d'accord du tout. Depuis 10 jours, sans relâche, elle va donc chercher les voix une à une, élu après élu. De débats en intervention télévisée, de tournées régionales en réunion de quartier, l'insubmersible Theresa May refuse publiquement d'envisager l'échec. Dans 2 semaines, dit-elle, rassurez-vous, j'aurai toujours un emploi.
Et pendant que le Royaume-Uni prépare sa sortie, il y a toujours 28 représentants des États membres, 28 ministres des Finances aujourd'hui réunis à Bruxelles. Ils doivent se pencher sur la quasi-immunité fiscale des multinationales américaines du numérique. Un projet prévoit d'y mettre fin, projet mis au point par la Commission européenne, poussé par la France et décrypté pour nous par Quentin Dickinson.
Faire payer des impôts comme à toute autre entreprise aux géants mondiaux du numérique, c'est l'objectif prioritaire de l'Union européenne en ce moment. C'est d'abord une question d'équité. Actuellement, le taux moyen d'imposition est d'au moins 23% pour les entreprises traditionnelles, alors que celle du numérique n'acquitte que 9% tout au plus. C'est ensuite une question de solvabilité. Le taux de croissance des entreprises traditionnelles plafonne péniblement à 0,2%, alors que celle du numérique caracole à 14%. Voilà qui a permis à 9 entreprises du numérique de figurer parmi les 20 plus grosses sociétés du monde, alors qu'il y a 10 ans, il n'y en avait qu'une seule. La Commission européenne projette donc de taxer les entreprises du numérique dans chaque pays en fonction du volume d'interactivité que l'on y constate et de soumettre à l'impôt tous les secteurs numériques qui actuellement y échappent. Cette initiative est très clairement très populaire chez les citoyens européens. Un exemple, un sondage tout récent indiquait que les 3/4 des Allemands y sont favorables.
Quentin Dickinson pour France Culture. Le président du Conseil italien communique à l'instant. Il présentera dans les heures qui viennent un projet de budget pour éviter une procédure disciplinaire de la part de Bruxelles. Le déficit envisagé par Rome sera sans doute plus bas que prévu, précise Giuseppe Conte. Ce sont déjà les dixièmes assises annuelles du livre numérique en France. Elles se tenaient à Paris hier, organisées par le Syndicat national du livre. Si l'utilisation du livre numérique est en constante hausse en France, cette année, seuls 2 Français sur 10 déclarent en avoir lu un, Cécile de Kervas-Doué.
Finalement, le papier a résisté. Et c'est une spécificité française, explique Virginie Clessen, la présidente de la commission numérique du Syndicat national de l'édition.
Je pense aux États-Unis avec Amazon. Amazon a littéralement sponsorisé le décollage du livre numérique aux États-Unis en pratiquant des prix extrêmement bas. On comprend bien que c'était plus pour élargir sa clientèle. Étant donné qu'ils ont un écosystème fermé, on achète leur liseuse, on achète les livres pour la liseuse et on devient un client avide d'Amazon. En France, on est protégé par la loi sur le prix unique du livre. Ils n'ont pas pu faire ça et on s'en réjouit.
Mais ça n'empêche pas le livre numérique de s'installer. En 2017, son chiffre d'affaires a augmenté de 10% en un an. Déjà très utilisé pour des raisons pédagogiques, à cause d'un handicap ou via les prêts de livres numériques des bibliothèques, le livre sur écran supplante même le papier dans certains genres, prévient Flore Piacentino qui suit ses évolutions pour le SNE.
Prenez les dictionnaires, le livre numérique a complètement pris le pas sur le format papier. La romance, ça a pris le pas. Le genre du policier et ainsi de suite.
D'autant que le livre numérique permet aussi de sortir de la lecture traditionnelle. Les éditeurs qui suivent au plus près les nouveaux usages pointent du doigt par exemple l'essor du livre audio qui se généralise en France pour des lecteurs qui écoutent leurs livres en faisant du jogging ou des tâches ménagères. Autre évolution, l'appétence pour les jeux vidéo et l'animation. Une révolution pour la bande dessinée du moment que c'est toujours l'histoire qui prime, nuance Florian Dupas, le fondateur de Qualia, une start-up spécialisée dans la BD numérique.
Bientôt nous aurons des lunettes de réalité augmentée qui permettront quand on regarde quelque chose de voir apparaître d'autres types de stimuli visuels. Et bien, si vous lisez une BD qui a été imprimée sur papier, cette histoire parle de personnes manipulées par des fantômes que dans la BD papier vous ne voyez pas les les fantômes, mais que dès que vous mettez les lunettes, là vous commencez à voir les fantômes. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui apporte à la narration et vous avez une nouvelle histoire dans l'histoire.
Reste la question du coût de telles innovations. Même sur le marché très florissant de la bande dessinée, les éditeurs n'ont toujours pas prévu de modèle économique pour pérenniser ces nouvelles écritures numériques.
Là, nous sommes loin de l'écriture numérique et l'on s'attache au contraire à l'écriture manuscrite. Une lettre d'Albert Einstein, manuscrite donc, est mise aux enchères aujourd'hui à New York chez Christie's. Le physicien y théorise la relativité et il y évoque sa conception de Dieu et de la religion. Des paroles rares, une lettre estimée à plus $1 million. Pour tout savoir sur ce manuscrit, rendez-vous sur franceculture.fr. Le temps de ce mardi qui débute, il sera bien souvent nuageux, devenant pluvieux cet après-midi sur la Bretagne. Le ciel s'annonce plus lumineux de l'Aquitaine jusqu'à la mer Méditerranée. Les températures, elles, sont toujours douces avec ce matin 8 degrés au Havre, 10 à Paris et Lyon, 11 à Strasbourg et Nantes. Comptez 13 degrés à Bordeaux, 15 à Perpignan.